groupe pour échanger, discuter, travailler ensemble. Et entre autres choses, il y a donc des conférences aussi, des journées et des conférences. Et donc aujourd'hui, le thème qu'on a choisi et qu'on a demandé à Isabelle de nous présenter, c'est transmettre la foi à l'ère du numérique. Question d'actualité s'il en est, on voit bien, on ne peut pas faire autrement, qu'on est quand même face à un décrochage de la foi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la transmission qui est cassé? Est-ce que le langage de la foi est devenu inaudible aujourd'hui? Voilà, on est pris dans une société qui est en très grande mutation, c'est la révolution du numérique. C'est plein d'opportunités et en même temps, parfois, on se sent un peu démuni et en même temps, démuni pour s'ajuster un peu à ce nouveau ce contexte. Et donc, la question est, comment est-ce qu'on fait pour annoncer l'évangile aujourd'hui d'une façon qui soit audible? Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé à Isabelle Morel? Parce qu'Isabelle est professeure à l'Institut catholique de Paris et elle est, entre autres, directrice de l'Institut supérieur de pastorale catéchétique. L'ISPC, et la question dont elle va nous parler ce soir, c'est vraiment un de ses champs de recherche, donc elle était tout à fait idéale pour pouvoir essayer d'apporter un peu quelques éclairages. Et puis, en plus, Isabelle est vraiment sur le terrain, elle fait de la recherche, mais en même temps, elle est vraiment sur le terrain parce qu'elle est déléguée du service formation de Besançon. Et c'est pour ça que je la remercie d'autant plus, c'est qu'elle fait le grand écart entre Paris et Besançon, qu'elle a changé ses projets, changé son train pour pouvoir être là ce soir. Et je la remercie beaucoup de la spontanéité avec laquelle elle a accepté tout de suite notre invitation dans un agenda déjà très chargé et la souplesse qu'elle a fait pour que ce soit possible. Alors le timing, 8h30, on commence. À peu près une heure de conférence, ensuite une demi-heure d'échange, questions, voilà. Et puis pour ceux qui veulent, qui ont un peu le temps, on terminera par un petit pause qui nous permettra de parler avec Pascal, de se rencontrer. Et de toute façon, à 22h, on doit avoir quitté les lieux impératifs pour la paroisse. Voilà.
À 22h, je ne parlerai plus, c'est promis. Voilà, merci de m'accueillir parmi vous. Merci par avance de votre attention. C'est, comme cela vient d'être dit, le résultat d'un certain nombre de recherches que je vais vous présenter ce soir. Parce que la question de la transmission de la foi, elle n'est pas nouvelle. Elle s'est posée depuis le début presque de l'humanité, on pourrait dire, d'une certaine manière, même si on n'y était pas. Et elle a toujours, je pense, travaillé le cœur des parents, des grands-parents, des parrains, des marraines et de tous ceux qui s'intéressent au bien des uns et des autres. Voilà. C'est notre première mission de baptiser et bien nous avons aussi, nous aussi, à essayer de voir ce qui est en jeu là derrière. Donc je vous partage ce soir le fruit d'un certain nombre de recherches actuelles qui sont menées à l'ISPC. C'est donc le fruit d'un travail collectif d'une certaine manière, même si les uns ou les autres, nous avons des productions individuelles, mais ça sera aussi l'occasion de vous donner plusieurs pistes. Hein. Mon but, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments. Si vous avez envie de creuser tel ou tel aspect, je vous donnerai quelques pistes possibles aussi, parce que c'est un domaine qui est complexe et qui met beaucoup de choses en jeu. Voilà. Puis vous n'hésiterez pas, s'il y a besoin, y compris pendant mon intervention, à faire signe si vraiment il faut que j'éclaire vos lanternes sur l'un ou l'autre point que vous n'auriez pas compris, ça ne me gênera pas du tout. On y va ? Très bien. Alors, je commence par une introduction, parce que le pape François s'est, comme nous, posé la question de la transmission de la foi, et dans son premier document, la première exhortation apostolique que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant programmatique, pour tout son pontificat, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, il disait dès le premier numéro, la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Et donc c'est bien cet évangile-là qu'il s'agit d'annoncer, de transmettre, de proposer. On peut mettre des tas de mots derrière l'annonce de la foi, la transmission de la foi. Ceux qui se laissent sauver, je vais y revenir, par lui, donc par Jésus, sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Et donc, vous voyez, l'intention de cette exhortation, il le dit juste après, « Je désire dans cette exhortation m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice. » Et donc, toute l'exhortation sur la joie de l'Évangile va conduire, en fait, à essayer de se poser des questions autour de l'annonce de l'Évangile, de la transmission de la foi, etc., etc. Et il va très rapidement dire quel est le point qui interroge le plus notre société aujourd'hui. C'est celui que j'ai mis en couleur dans sa citation. Il le dit, vous voyez, dès le début. « Ceux qui se laissent sauver par Jésus sont libérés du péché. » Et vous reconnaissez les paroles du kérigme après, hein, « sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, etc. » puisque c'est Jésus-Christ qui sauve. Une des principales difficultés que nous identifions aujourd'hui, c'est la question suivante, dans la société d'hyperconsommation qui est la nôtre, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés ? Je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, donc vous voyez, ça remonte déjà à quelques années, un prêtre de mon diocèse avait posé la question à l'assemblée de jeunes que nous étions, en disant « Mais de quoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvés ?» Puis j'avais répondu un peu de manière péremptoire « Absolument de rien !» Ben oui, vous voyez, on n'a pas besoin... Est-ce qu'on a besoin d'être sauvé de la maladie ? On va chez le médecin. Est-ce qu'on a besoin d'être sauvé de la faim ? On va aller au supermarché. Est-ce qu'on a besoin d'être... etc., etc. Notre société, elle est complètement organisée pour satisfaire tous les besoins. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont dans le besoin, mais en règle générale, on essaye de trouver une solution pour tout. Et il avait répondu, je m'en souviens, c'est encore gravé dans ma tête, rien, tu n'as besoin de rien, d'être sauvé de rien, eh bien, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que dans une société d'hyperconsommation, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés si nous n'arrivons pas à répondre à cette question-là ? Comment voulez-vous que l'annonce du kérigme « Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te sauver » puisse avoir sens ? Et donc, on a, dès le premier numéro de cette exhortation, une invitation à se poser la question. Ou en tout cas, à entendre qu'il y a, dans les questions de transmission et d'annonce, un enjeu qui est de se laisser sauver. Mais sauver de quoi ? Le pape François va y répondre un petit peu plus loin. Et vous voyez, dès le paragraphe 2, il va dire « Le grand risque du monde d'aujourd'hui, donc de quoi nous avons besoin d'être sauvés, en quelque sorte, c'est de ce risque, avec son offre de consommation multiple et écrasante, avec une tristesse individualiste, qui vient du cœur bien installé, avare, etc. Eh bien, en fait, c'est la recherche malade de plaisir superficiel, de conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce voix de son amour, l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un vrai risque qui nous empêcherait d'être sauvés, c'est celui de tomber dans une tristesse individualiste qui nous enferme d'une certaine manière. Et ça conduit, cet aspect-là, à essayer de creuser ce qui est en question derrière la manière dont nous vivons ensemble aujourd'hui. Il va dire un petit peu plus loin, au paragraphe 3, « J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. » Et donc, c'est bien l'idée de sortir de cet individualisme pour renouer la relation avec quelqu'un, et à commencer par Jésus-Christ, relation personnelle, qui se traduira après par une relation communautaire, qui est en jeu. Mais je vais y revenir. Et il affirme, un peu pour enfoncer le clou, au dernier paragraphe de l'introduction, « C'est seulement grâce à cette rencontre » ou nouvelle rencontre, avec l'amour de Dieu qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Le fait d'être centré sur nous-mêmes, en fait. Retenez bien cette expression, je vais la reprendre tout à l'heure. Le risque que nous avons aujourd'hui, c'est d'être centré sur nous-mêmes. Et pour le pape François, c'est dans cette invitation à ne plus être centré seulement sur nous-mêmes, mais à être en relation avec Dieu et donc avec les autres, que se trouve la source de l'action évangélisatrice. Donc nous avons quelque chose à aller chercher dans ce sens-là, du côté de ce qui se passe dans le contexte actuel qui est le nôtre, et qui est de l'ordre de cette relation-là, de ce qui est rendu possible. Alors je vous propose au programme trois points. on va commencer par prendre la mesure des changements qui sont en cours. Et là, je vais vous présenter un certain nombre de résultats de recherche que nous partageons avec des collègues sociologues, médiologues qui sont spécialistes des médias, ou encore psychologues, etc., philosophes aussi, de telle manière que nous comprenons bien ce qui est en train de nous arriver. Alors, je précise qu'il n'est pas du tout dans mon intention de dire c'est bien ou ça n'est pas bien. Il s'agit simplement de comprendre qu'est-ce qui est en jeu derrière les mécanismes actuels de ce changement qui est en train de nous arriver. Et puis ensuite, on ira regarder de plus près ce danger, que ce risque que le pape François pointait du doigt dès le début de son introduction. Alors lui, il parlait d'autoréférencement. On peut utiliser un autre mot, l'anthropocentrisme, anthropos l'humain, hein, le fait d'être centré sur l'humain, qu'il va reprendre plusieurs fois et entre autres, notamment dans l'encyclique Laudato Si, beaucoup. Et puis, dans un troisième temps, je vous proposerai quelques pistes pastorales. Alors, c'est histoire de ne pas rester sans solution. Alors, ça ne veut pas dire que c'est applicable comme ça, tel que. Hein, c'est pas une clé à outils, c'est pas une boîte à outils, pardon. Mais on peut imaginer qu'il y a plusieurs pistes et perspectives possibles qui nous permettent d'essayer de faire sentir, d'abord à nous-mêmes, puis à ceux que nous côtoyons, combien il y a quelque chose qui mérite d'être sauvé pour chacun d'entre nous dans le monde d'aujourd'hui. Ça va pour ça ? C'est donc le programme du temps qui vient. Et je commence par un apéritif. Après mon introduction, il y a un apéritif, donc c'est un petit tiroir. Je vais vous présenter un schéma un peu complexe. Il y a des flèches dans tous les sens. Alors, vous affolez pas, parce que je vous explique ce que c'est après. On le doit à Denis Villepelet. Denis Villepelet, c'est un philosophe et théologien de la catéchèse qui a réfléchi à l'acte de transmission depuis le début des années 2000, puis même un petit peu avant. Et en 2003, il écrit un livre qui essaye de dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on transmet la foi, lorsqu'on annonce l'évangile, qu'est-ce qui est en jeu. Alors, il est à la fois philosophe et théologien, et ça le conduit à penser les choses dans leur complexité. C'est ce que veulent dire les flèches, d'une certaine manière. Alors, regardons ça de plus près. Vous voyez qu'il identifie 5 domaines, 5 champs, et l'idée de fond, c'est de comprendre que derrière ces 5 champs ou ces 5 domaines, il y a toujours une interaction entre les uns et les autres. Autrement dit, si l'un d'entre eux bouge ou évolue, ça va faire évoluer les autres. Alors, regardons par exemple celui que vous voyez en bas à gauche. Le champ sociologique, c'est le type de société dans lequel nous vivons. Donc, par exemple, la société traditionnelle du Moyen-Âge, eh bien, n'est pas du tout celle de nos démocraties du XXIe siècle. Donc, vous voyez qu'il y a à prendre en considération les évolutions de ce champ-là. Eh bien, ce que montre Denis Villepelet dans son ouvrage, c'est aussi le résultat de sa thèse, hein, c'est que ce type de société, il va produire ou il va avoir des conséquences sur ce qu'il appelle, par exemple, juste au-dessus, le champ ecclésiologique. Ecclésia, vous reconnaissez, hein, l'assemblée, l'église, c'est-à-dire le type d'église que cela produit. Ce n'est pas surprenant qu'une société pyramidale, comme celle que l'on a connue au Moyen-Âge, produise une église de type pyramidal très verticale, dont on a encore des traces aujourd'hui. Même si ce n'est plus tout à fait exactement la même. Ça va, vous voyez le principe. Hein. Et donc, ça joue de la même manière avec les autres champs. Le champ anthropologique, anthropos, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'humain. L'humain, c'est l'homme. Mais l'homme et la femme. Et le fait même que je vous précise que anthropos, c'est l'homme et la femme, c'est tout à fait caractéristique du XXIe siècle. Il y a un siècle, on n'aurait même pas dit ça. Et donc, vous voyez, ça, c'est un domaine, un champ, la place de l'homme, l'homme et la femme, la place de l'humain dans la société, c'est un champ qui est en pleine explosion. Vous voyez toutes les questions de débat, éthique, morale, le post-humanisme, le transhumanisme, et puis les questions de fin de vie, etc. On voit que les questions de genre, etc., c'est en train de bouger très très vite. Eh bien, ça a aussi une influence, ou la société a aussi une influence sur ce type de domaine-là. Ce que va dire aussi Denis Villepelet, c'est que c'est un domaine où, en fait, on est invité à être attentif à la place que prend l'humain dans la société, la manière dont il s'y retrouve. Dans une société, pour reprendre mon exemple, très pyramidale, de type du sel de Moyen-Âge, c'est caricatural ce que je dis, hein, mais c'est pour nous aider à penser, eh bien, chacun est à sa place. Le noble restera toujours noble, le paysan restera toujours paysan. Dans une société comme nos démocraties que nous connaissons, on est beaucoup plus horizontal. Il peut y avoir aussi des évolutions, il y a même des aspirations, en fait, hein. Et donc, vous voyez, ça, ça bouge. Alors, ça devient très intéressant pour la question de l'évangélisation et de la transmission avec les deux derniers modèles, les deux derniers champs. Et vous voyez que le champ pédagogique, c'est la manière de s'y prendre. Eh bien, ça dépend aussi des trois autres domaines. Ça a des conséquences. C'est ça que je vais vous montrer, entre autres. Et puis, le dernier champ qu'il appelle le champ théologique ou catéchétique, théos, en grec, Dieu, c'est-à-dire l'image de Dieu que nous transmettons. Eh bien, l'image de Dieu que nous transmettons, elle n'est pas la même en fonction de tous ces domaines-là. Si vous avez encore en tête le Dieu tout-puissant, tout là-haut dans les cieux, qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout, qui voit jusqu'à nos plus secrètes pensées, c'était dans le catéchisme question-réponse. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui l'ont connu. Hein. Eh bien, c'était beaucoup associé à des photographies ou à des représentations d'un vieil homme barbu qui était dans les nuages, parfois avec même un gros œil qui regardait en bas. Enfin, je vous passe ces détails, sinon j'en parlerai toute la soirée. Mais vous voyez que ça, c'est pareil, ça évolue avec le temps. Moi, ma génération, elle a eu des documents catéchétiques où on parlait de Jésus mon frère, Jésus mon copain, Jésus mon ami. On n'était plus du tout dans cette image-là. Ça va ? Aujourd'hui, ça a encore bougé. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que la société numérique, dans les 20 dernières années, alors on remontera légèrement plus loin, mais c'est essentiellement dans les 20 dernières années, ça fait bouger de manière absolument incroyable les domaines du type champ sociologique et champ anthropologique. Et donc, imaginez que les flèches sont des élastiques. Vous tirez sur les deux champs que je viens de citer, sociologique et anthropologique. Et vous n'êtes pas surpris que ça fasse bouger les autres. Ça va, ça ? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais essayer de vous donner quelques clés pour comprendre ces changements-là. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que tout le reste est en train de bouger parce que le reste bouge. Ça n'est pas ni bon ni mauvais, c'est pas la question. C'est comme ça, parce que nous sommes pris dans ce monde-là, et c'est ce monde-là que nous avons à aimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire complètement, il faut être plutôt dans la réception intelligente pour essayer de voir ce qu'il y a de mieux à faire. Ça va, ça ? C'est important, hein, parce que ça nous permet de comprendre ce qui est en jeu pour notre problématique. Alors, je commence, si vous voulez bien, sur mon premier point, justement, qu'est-ce qui est en train de changer ? Il y a quatre grands éléments qui sont en train de changer. Le premier, c'est notre rapport au savoir. On n'apprend plus du tout de la même manière aujourd'hui qu'il y a même 25 ans. C'est pour dire, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais prendre l'exemple de ce que dit Michel Serres. Michel Serres, vous connaissez ? Un philosophe, qui est décédé il y a quelques années, qui était un très vieux monsieur lorsqu'il a écrit ce petit livre adorable qui s'appelle Petite Poussette. Il y en a quelques exemplaires là-bas parce que j'avais dit c'est vraiment indispensable, celui-là je vais en parler. Il a changé de couverture, mais l'intérieur est toujours aussi bien. Ça se lit en une heure, c'est écrit gros, oui. Ça se lit en une heure, c'est écrit gros, c'est pas cher du tout, c'est un vrai délice. Dans Petite Poussette, qu'est-ce que fait Michel Serres ? Il observe sa petite nièce qui est en permanence en train de faire ça. Regardez. Vous les avez déjà vus. Ils agitent leurs pouces, certainement beaucoup plus vite que moi encore. Et Petit Pousset, c'est son petit-neveu qui agite ses pouces en permanence. Donc autrement dit, il est en train d'observer la génération qui est tout le temps connectée et il décrit ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit ? En fait, il ne voit pas que Petit Pousset et Petite Poussette. Il nous voit nous aussi. Et c'est ça qui est absolument renversant. Il nous voit et il dit, eh bien, nous sommes devenus des Saint-Denis. Alors, comme nous sommes à Paris, on a tous en tête l'histoire de Saint-Denis, c'est le cas de le dire. Saint-Denis, c'est ce saint de la ville de Paris pour lequel on raconte qu'il a été décapité à l'emplacement de la basilique Montmartre et qu'il a marché avec sa tête dans ses mains jusqu'à l'emplacement de la basilique Saint-Denis. Ça va ? Eh bien, nous sommes tous des Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que nous avons notre tête entre nos mains. Aujourd'hui, moi la première, hein, quand on me demande, au fait, ça c'est dans quelle collection ? Ou c'est chez quel éditeur ? Ou c'est quoi l'adresse de la librairie, au fait ? Systématiquement, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir là-dedans. Parce que nous avons toutes les informations possibles et imaginables si on est connecté, parce que c'est là que le décrochage se mesure aussi, on l'a tout de suite et c'est devenu notre réflexe. À l'Institut catholique de Paris, on a modifié la façon dont le Wi-Fi fonctionne. Et on l'a multiplié, la capacité du Wi-Fi a été multipliée par plus que 10 en même pas 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'au début, il y avait quelques téléphones portables, quelques ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde a son téléphone portable et veut qu'il soit connecté. Il y a même des applications pour que des petits jeux sympathiques permettent de démarrer le cours de manière ludique, de telle manière qu'on fasse participer tout le monde. Vous voyez, tout un amphi de 200, c'est super pratique avec un QR code au milieu. Voilà. Et tout le monde a son téléphone, tout le monde a son ordinateur et certains ont même une tablette. Et donc on a dû multiplier par 10 et surtout augmenter le débit. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, la manière de travailler et d'apprendre inclut cette connexion. Moins dans le domaine qui est le mien en théologie, encore que ça peut arriver, mais mes collègues de lettres ou de sciences sociales disent assez facilement que c'est régulier que dans un amphi de 100 ou 200 personnes, il y a un étudiant qui dit « Mais madame, ce que vous venez de dire, c'est pas vrai. Sur Internet, il y a écrit autre chose. » Vous voyez ? Moi, je n'enseigne plus de la même manière. J'ai arrêté d'apprendre par cœur certaines dates ou certains éléments que j'avais du mal à retenir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre des choses par cœur. On est bien d'accord, hein ? J'ai dit, j'ai arrêté de le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai eu tel concile, ah, c'était je ne sais plus en quelle année, regardez voir, 10 secondes après, j'ai la réponse. Un bon prof, c'était un prof qui avait tout dans sa tête, qui était capable de tout vous redire. Je ne dis plus qu'il ne doit rien avoir dans sa tête, hein ? J'ai pas dit ça, hein ? Un bon prof, c'était quelqu'un qui avait tout dans sa tête. Il faut toujours qu'il ait des choses dans sa tête, parce qu'il a besoin de les organiser. Mais aujourd'hui, la plus-value d'un prof, d'un bon prof, c'est de vous permettre de faire des liens, des connexions entre les informations qui existent et surtout de vous apprendre à aller vérifier vos sources. C'est-à-dire, c'est vous aider à organiser le savoir. C'est ça qui compte aujourd'hui. À la fois vérifier son origine, ses sources, et vous aider à connecter le savoir. Parce que l'accès en lui-même, ce n'est pas très compliqué. Sauf qu'il faut savoir où aller chercher, comment chercher, qu'est-ce que je cherche et pourquoi je cherche telle ou telle chose. Vous voyez ? Et c'est là que, en fait, ça modifie l'enseignement. Alors Michel Serres va dire ceci. Donc, vous voyez, il écrivait en 2013, hein. C'est une manière d'expliquer ce qu'il voit de la société actuelle. Il n'y a plus que des conducteurs, que de la motricité, c'est-à-dire tout le monde a envie d'être actif, de bouger. Plus de spectateurs, l'espace du théâtre se remplit d'acteurs mobiles. Vous voyez, on a besoin de rendre actifs ceux qui apprennent. Plus de juges au prétoire, rien que des orateurs actifs. Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a un fait divers. Tout de suite, dès que le fait divers apparaît dans les fils d'information sur les réseaux sociaux, les personnes, avant même que les spécialistes aient fait leur travail, sont déjà condamnées. Là, ça nous intéresse aussi. Plus de prêtres au sanctuaire. Le temple se remplit de prêcheurs. Vous allez sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut se déclarer spécialiste en tel ou tel domaine. Et sur TikTok et sur Instagram, eh bien, vous avez de nombreux influenceurs qui vont prendre la parole en leur nom propre, mais pour transmettre la foi qui parfois est d'abord leur foi et pas celle de l'Église. Vous voyez, il y a moins de contrôle. Plus de maîtres dans l'amphi, partout des professeurs. C'est ce que je vous disais, on n'hésite plus à prendre la parole. D'ailleurs, s'il y a des enseignants parmi vous en primaire, en collège ou en lycée, c'est encore plus compliqué pour eux aujourd'hui, parce que leur parole est nettement plus remise en question qu'à une certaine époque. Et nous aurons à le dire, plus de puissants dans l'arène politique, désormais occupés par les décidés. Il suffit de regarder la vie politique de ces dernières années. Hein. Tout s'est cristallisé sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce n'était pas tant la réalité de ce qui était dit qui l'emportait, que la motivation et la manière dont celui qui parlait prenait la parole. Il suffit de traverser l'Atlantique pour voir ce qui se passe, mais c'est vrai aussi chez nous. Hein. Ça va, ça? Donc, vous voyez, notre rapport au savoir change. Un de mes collègues, Renaud Labie, qui est sociologue, il a soutenu sa thèse hier matin, brillamment, en 2019, écrivait dans son mémoire de licence canonique « En régime numérique, le savoir partagé, stocké de manière dématérialisée, n'obéit plus aux règles de l'organisation hiérarchique des connaissances, mais procède par collage. » Je m'explique. Il y a 50 ans, mais même pas avant, on prenait un livre, on l'ouvrait à la première page et on finissait à la dernière. On avait un rapport au savoir qui était linéaire. Ça va ? On commence à l'introduction et on finit à la conclusion. Aujourd'hui, vous allez sur une page internet, vous commencez à lire. Si c'est trop long, vous arrêtez. S'il y a un mot qui est mis en surgras ou en bleu, qui tout d'un coup aiguise votre curiosité, paf, vous cliquez dessus. Vous êtes renvoyé à une autre page qui va vous renvoyer à une autre page. Et en fait, c'est vous qui construisez votre propre ligne. Ça va, ça ? Et donc, il n'y a plus une organisation pensée, logique. Alors, il y a encore dans les livres, hein, j'espère bien. Mais la plupart de nos contemporains, et ce n'est pas seulement les jeunes, hein, c'est tout le monde, hein, c'est nous compris, nous avons un rapport au savoir qui est de plus en plus disjoint. C'est-à-dire qui est séparé. Voilà. Ce sont des fragments qui s'accumulent. Et du coup, pour la logique des connaissances, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, ça c'est ce qu'on peut se dire dans un premier temps pour notre rapport au savoir. Alors, ça nous intéresse dans la transmission de la foi, parce qu'il y a évidemment une question de logique dans la présentation de l'ensemble. Un autre élément qui est en train d'évoluer, c'est notre rapport à la vérité. Alors, je vous passe toutes les histoires de fake news, de fausses nouvelles, etc. Vous voyez très bien de quoi je parle. Les réseaux sociaux se sont mis à relayer de manière de plus en plus importante tout ce qui passe et qui attire l'attention des uns ou des autres. Et donc, c'est d'autant plus vrai avec les fake news. Un autre de mes étudiants, Danang, qui termine aussi sa thèse en ce moment, écrivait en 2018, en enquêtant sur les publications diffusées sur Twitter qui est devenu X depuis, hein, un groupe de chercheurs américains a découvert que les fausses nouvelles ont été retransmises beaucoup plus vite et atteignaient plus d'internautes que la vérité dans toutes les catégories d'informations. Ce n'est pas que pour la foi, c'est pour toutes les informations qui existent. Et pourquoi ? Pour la raison qu'elles apportent des nouveautés et exploitent l'émotion de la part des internautes. Et donc, vous comprenez que ces questions-là viennent interroger notre manière de croire, parce que nous, nous croyons en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et donc, de quel type de vérité s'agit-il ? Ça, c'est une vraie question de fond. Il y a un de nos collègues qui s'appelle Régis Debray, vous avez déjà entendu ce nom-là aussi, hein, qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle la médiologie, la science des médias, qui a identifié ce qu'il appelle des médiasphères, c'est-à-dire des sphères culturelles qui sont liées à une époque donnée, parce que dans cette époque donnée, un média spécifique est prédominant. Et donc, dans l'histoire de l'humanité, il a identifié 4 médiasphères. La première, c'est ce qu'il appelle la logosphère. Alors, pour prendre un exemple, vous partez à l'époque des cavernes. L'époque des cavernes, on ne connaît pas l'écrit, on ne connaît pas la télé, etc. Et la seule manière de transmettre, de dire quelque chose, c'est de parler. Et donc, à cette époque-là, qu'il appelle l'ère des idoles, ce qui prédomine, c'est la transmission orale, l'oralité. Et il dit, dans cette logosphère, logos, la parole, hein, est vrai ce qui est cru. C'est-à-dire, si le chef a dit ça, alors je le crois. Est vrai ce qui est cru. Si le chef de la tribu dit ça, alors je le crois. C'est le chef de la tribu qui a la vérité. Ce qui a d'ailleurs conduit, dans un certain nombre de sociétés, à adopter la religion du roi. Hein, c'est pour vous donner une idée. Nous ne sommes plus à l'époque de la logosphère. Il ne suffit pas que quelqu'un nous dise blanc pour qu'on croie que c'est vraiment blanc, même si ça l'est. Il identifie ensuite la graphosphère, graphos, l'écrit. Et il dit la graphosphère advient à partir du moment où on invente l'imprimerie. Il ne parle pas de l'écriture, il parle de l'imprimerie, c'est-à-dire cette invention technique qui va, au fil des décennies démocratiser, et des siècles, démocratiser le livre. Avec l'invention du livre, on va inventer la bibliothèque, on va inventer l'encyclopédie, on va inventer l'université. D'accord ? Ça va se faire progressivement. Mais il dit, à cette époque-ci, est vrai ce qui est lu. C'est ce qui donne, par exemple, bah oui, c'est vrai, c'est écrit dans le dictionnaire. Et le dictionnaire fait... C'est pas que pour le Scrabble. Encore qu'aujourd'hui, les vrais Scrableurs, ils font plus tout à fait comme ça. La vidéosphère, elle apparaît avec l'invention de l'image animée. J'insiste, hein, animée, parce qu'on avait des images fixes bien avant. C'est le règne du visuel. C'est le milieu du XXe siècle, puis même un petit peu avant, quand ça s'est démocratisé. Est vrai ce qui est vu ? Ben oui, c'est vrai, c'est passé à la télé. Ça, c'était dans la cour de récréation quand j'étais au primaire. Si c'était passé à la télé la veille au soir, c'est forcément que c'était vrai. Je m'en souviens, hein. Alors, à l'époque, il y avait 2 chaînes. 3 maxi. Aujourd'hui, il y en a tellement que vous pouvez trouver tout et son contraire sur la télévision. Et donc, nous ne sommes plus à l'ère de la vidéosphère. Nous sommes à l'ère de ce que Régis Debray appelle l'hypersphère. C'est en fait une époque qui est dominée par une nouvelle invention technique, qui est Internet, et qui donc conduit à dominer ou à nous mettre dans un milieu ambiant complètement différent. Et même si vous n'êtes pas un féru d'informatique, vous êtes baigné dans ce monde-là. Vous aussi, vous êtes pris dans cette affaire-là. Et donc il dit, à l'ère de l'hypersphère, est vrai ce qui est sur Internet. Autrement dit, si... Je prends un exemple, bateau, caricatural, pardonnez la caricature. Si vous êtes persuadé que les vaccins, ce n'est pas bien du tout, vous allez aller sur Internet, vous allez trouver des tas de choses contre les vaccins, et oui, vous allez être renforcé dans votre idée que les vaccins, ce n'est pas bien du tout. Si vous êtes persuadé que les vaccins, c'est très très bien, vous allez aller sur le même Internet, mais vous allez cliquer sur d'autres choses parce que ça attire votre attention, et vous allez être renforcé dans votre idée que c'est vraiment très très bien les vaccins. Vous voyez, vous prenez n'importe quel domaine, ça fonctionne comme ça. Donc, est vrai ce que l'on va trouver sur Internet. Et donc, notre rapport à la vérité est en train de changer. Et ça, ce n'est pas sans conséquence pour les questions de transmission de la foi. Je vais plus vite sur le reste, parce que vous allez tout de suite voir de quoi on parle. Notre rapport au temps est en train d'évoluer très très vite. Vous voyez, on est à l'ère de l'immédiateté. Au début des années 2000, quand j'avais mon premier ordinateur dans ma chambre, c'était l'époque où les mails, il y avait une barre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, une barre grise, et le temps que le mail se télécharge, ça pouvait prendre 5 minutes. Et j'étais super contente. C'était juste extraordinaire. On pouvait parler à quelqu'un et qu'il reçoive le message une demi-heure après. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, si ça met plus de 10 secondes à se télécharger, ça m'énerve. On est à l'ère de l'immédiateté. Vous voyez, ça a beaucoup bougé. Mais du coup, ça a des conséquences aussi dans notre manière de vivre, ça. La patience, le fait d'attendre ou d'être dans le besoin d'un résultat immédiat, ça entre en jeu aussi dans les domaines de la transmission de la foi. S'il y en a parmi vous qui font des permanences en paroisse, on a tous vu ces catéchumènes qui viennent, ou ces parents qui viennent demander le baptême pour eux ou pour leur enfant dans 15 jours. Et là, on leur dit, ah ben non, mais attendez, il a quel âge ? Non, il faut 2 ans. 2 ans ! C'est juste qu'on ne propose pas la même chose que ce qu'on a en tête, vous voyez ? Hein ? Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Si jamais ça vous intéresse, ça, il y a un livre qui est publié dans la collection Théologie pratique qui s'appelle « Tout, tout de suite ». C'est en fait un colloque de chercheurs qui s'était rassemblé à Fribourg et qui essayait de se demander comment on peut faire dans un monde de l'immédiateté pour permettre de découvrir la parole de Dieu qui a besoin de temps pour être ruminée, méditée, etc. etc. Vous voyez, il y a une forme de paradoxe à tenir. Voilà. J'en dis pas plus. Notre rapport à l'autorité est en train d'évoluer aussi. Alors, pour arriver à bien comprendre ça, il faut comprendre comment Internet fonctionne. Internet a été créé, ben le principe, je caricature aussi, mais c'est pour aller vite. Le principe d'Internet a été créé au milieu du XXe siècle par ceux qui l'utilisaient à l'époque. Et en fait, c'est une agence militaire américaine au moment de la guerre froide, à qui on a, qui s'appelle l'ARPA, qui a inventé l'ARPANET, ce qui a donné le net, à qui on a demandé d'inventer un système qui fasse que si l'ennemi détruit un centre de communication, l'information ne se perde pas. Ça va, ça ? Et donc, vous imaginez que les petits points lumineux, ce sont des ordinateurs. Le principe, c'était d'inventer un système qui fasse que si on détruit un de ces ordinateurs, l'information ne se perde pas. Si mon ordinateur tombe en panne là, je n'aurais pas perdu mes mails. Ceux que j'ai envoyés tout à l'heure, ils sont stockés ailleurs. Ça va, vous voyez ? Et donc, le principe du réseau, du web, de la toile, est né comme ça. Et ce que montrent les spécialistes en sociologie dans ces domaines-là, c'est que, en fait, nous sommes maintenant modélisés par ce principe-là. Le principe du réseau est devenu modélisant. Et donc, la création d'Internet par l'ARPA a inscrit dans notre manière de vivre le principe suivant : il n'y a pas de centre. Dans le principe du réseau, il n'y a pas de centre. Et donc, s'il n'y a pas de centre, qu'est-ce qui est central ? C'est nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devenons notre propre centre, en fait. Il y a plein de petits centres un peu partout. Vous vous souvenez du mot utilisé par le pape François tout à l'heure, hein ? L'auto-référencement. Voilà. Le risque d'être anthropocentré, centré sur soi. Alors, si on continue un petit peu l'histoire d'Internet aussi, c'est en fait, un peu plus tard, en 89, un scientifique, Tim Berners-Lee, qui invente le langage qui permet d'envoyer les mails, de créer les sites, etc. Et qui a dans son idée une très belle intention de fond, hein, l'envie que toutes les découvertes scientifiques puissent être offertes à ceux qui en auraient besoin. Donc Internet à l'origine, c'est le principe de l'ouverture et du partage. L'idée, c'est qu'une découverte faite à tel endroit peut être mise en ligne et utilisée par des confrères qui sont à l'autre bout de la Terre, peut-être dans des pays moins développés, et qui pourront s'appuyer dessus pour faire avancer la recherche. Ça, c'est le projet d'origine. Pas de centre, ouverture et partage. Aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe complètement. Parce qu'aujourd'hui, on va observer ce qu'on appelle le problème du bouclage. Je prends une image. Imaginons que j'ai besoin d'un t-shirt jaune. Je dis n'importe quoi. Je vais sur Internet, je tape t-shirt jaune. Je vais être envoyé à des sites qui me proposent des t-shirts jaunes. Et puis tout d'un coup, j'ai autre chose à faire. Puis j'ai plus le temps, c'est l'heure de partir. Je ferme mon ordinateur, je le rallume le lendemain. Je vais sur un autre site. Et dans les carrés ou les rectangles de pub, qu'est-ce que j'ai ? La pub pour les t-shirts jaunes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ça, c'est exactement le principe du bouclage. Derrière nos moteurs de recherche, il y a des algorithmes, des formules mathématiques qui repèrent nos centres d'intérêt et qui vont nous renvoyer vers les éléments qui constituent ces centres d'intérêt. Ça va, ça ? Pourquoi ? Parce que le principe, c'est que plus vous allez cliquer sur ce qui vous intéresse, plus vous allez passer de temps sur ces sites-là. Et donc, plus les publicités qui vont être mises sur ces sites-là vont être chères. On va pouvoir avoir de l'argent avec. Vous voyez, c'est le principe économique qui est derrière. Ça vous est jamais arrivé de vous demander comment ça se fait que les moteurs de recherche sont gratuits ? Google, tout ça là. Comment ça se fait que c'est gratuit, ça ? Parce que c'est quand même un sacré service qui fait un travail extraordinairement rapide, qui est super utile et dont on se sert presque, enfin tous les jours, plusieurs fois même. Et c'est gratuit. Il y a un truc. En fait, les sociologues disent, nous payons, Yves Citon, pour dire d'où ça vient, dit nous payons avec notre attention. C'est-à-dire le temps que nous passons, ça se compte en secondes, hein, le temps que nous passons sur ces sites-là font augmenter la valeur des publicités qui sont dessus. Donc, la logique économique veut que nous avons intérêt à être renvoyés à la même chose que ce que nous utilisons. J'ai fait une fois cet essai-là, avec une de mes voisines qui est musulmane. On a ouvert tous les deux Google. J'ai tapé Jésus. J'ai été renvoyée à des sites en .cef.fr, Conférence des évêques de France, ou alors à des sites protestants. C'est ceux que j'avais l'habitude d'aller voir. Ben, c'est normal, il a reconnu mes habitudes. Un autre ordinateur, toujours le même Google, Jésus, eh ben, elle a été renvoyée à toute une autre liste de mots, de sites. Parce que ce n'est pas ceux qu'elle a l'habitude d'aller voir. Ça va, vous voyez? Et donc, ce qu'on montre avec ce système-là, c'est qu'en fait, on pensait s'adresser au monde entier avec Internet en allant évangéliser et dire « Jésus sauve » à tout le monde. En fait, non, pas du tout. Nous sommes renvoyés dans nos propres bulles. Mes collègues disent « les cathos parlent aux cathos, les protestants parlent aux protestants, les musulmans parlent aux musulmans ». Nous bouclons sur nous-mêmes. Renaud Labi a publié son mémoire, enfin il ne l'a pas publié, pardon, c'est en fait en ligne, ça c'est le bon côté d'Internet. Si vous voulez le lire, ça s'appelle « Internet et communication évangélique ». On peut le télécharger sur le site des cahiers internationaux de théologie pratique. C'est accès libre, gratuit, selon les intentions de départ d'Internet. Comme quoi, c'est possible aussi. Pastoralis.org. Voilà. Alors, il dit ceci. Les sites catholiques en ligne, qu'ils soient ou non institutionnels, rassemblent essentiellement des fidèles. S'ils pratiquent l'évangélisation, celle-ci est essentiellement indirecte. Ces catholiques viennent y chercher de quoi nourrir leur foi, se sentir attachés à l'institution, etc., etc. Mais le témoignage, c'est pas d'abord là que ça se passe. Si vous êtes responsable d'une aumônerie avec des jeunes ou des ados, sur la page Facebook de l'aumônerie, vous n'avez que les jeunes de l'aumônerie. Il n'y en a pas d'autres. Ça boucle sur soi-même. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Et donc, ça me permet de passer à mon deuxième point, qui est d'attirer votre attention sur ce danger d'être son propre centre, ou ce que l'on pourrait appeler le danger de l'anthropocentrisme. Le pape François a utilisé plusieurs fois ce terme-là, et entre autres dans son encyclique Laudato Si, et depuis ça revient très régulièrement. Il dit « Les progrès technologiques et scientifiques ont conduit à améliorer de manière significative nos conditions de vie, et l'on peut s'en réjouir ». Vous voyez, il ne s'agit pas de condamner, ni de dire qu'il ne faudrait pas. Il faut juste prendre la mesure du fonctionnement pour s'y ajuster. Alors, il dit ça, mais il donne aussi à ceux qui en ont la maîtrise intellectuelle et économique un terrible pouvoir, une forme d'emprise. Et donc, il faut comprendre ce qui est là derrière. Quand on regarde un petit peu les choses de plus près, eh bien, le théologien Jürgen Moltmann, qui nous a fait encore la joie d'écrire un article sur la question en 2018, c'est un vieux monsieur, Jürgen Moltmann, aujourd'hui, hein, mais qui est présent sur Twitter. C'est juste incroyable, mais voilà. Hein. Alors, il écrit « Depuis la Renaissance, le monde moderne portait les marques d'une détermination anthropologique. L'être humain s'est cru le centre du monde. » Ça, c'était en 1486, pic de la Mirandole, hein. Le savoir, c'est le pouvoir, c'est ce qu'expliquait Francis Bacon un peu plus tard. Par la science et la technique, l'être humain devient maître et possesseur de la terre. Ça, c'était Descartes. On s'est construit au fil de notre histoire avec l'idée qu'on allait posséder, maîtriser le monde. Pourquoi ? Parce que on a eu en tête, très rapidement, ce que vous avez dans l'expression latine ici, « imago dei dominum terrae », à l'image de Dieu, « imago dei », Dominum Terrae, le maître de la terre. Vous avez tous en tête ce passage de la Genèse où on va trouver cette invitation à être créé à l'image de Dieu. Je vous l'ai remis là. C'est les versets 26-28. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître. » Le maître, c'est le dominum, hein, le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, etc. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Et puis il dit, soumettez la terre, soyez les maîtres, etc., etc. Qu'est-ce qu'on entend là derrière? Quand on fait un travail un peu sérieux sur les documents catéchétiques, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire, je vous en reparle rapidement tout à l'heure, et que l'on observe la manière dont les documents catéchétiques présentent la création et la manière de comprendre ça, alors on observe rapidement qu'on a compris que Dieu était un Dieu tout-puissant. C'est ce qui est écrit dans les catéchismes questions-réponses. Sauf que la toute-puissance qu'on a comprise, c'est une toute-puissance à la manière humaine, puisqu'on l'a compris avec nos propres représentations. Donc à l'image de Dieu, c'est en fait que nous avons pensé Dieu à l'image de la toute-puissance humaine. Et donc on a compris la création comme une organisation qui permettait de créer l'homme à l'image de Dieu. Ce qui a donné, en fait, des représentations de la création qui se sont concentrées sur combien de jours ? La création, c'est en combien de jours ? 6 jours. En tout cas, c'est ce qu'on a en tête. Ici, vous avez un exemple qui remonte à 1460. Vous voyez, c'est loin. Vous avez au milieu une représentation du paradis de l'enfer et puis 6 vignettes. Les 3 qui sont sur la gauche, c'est les 3 premiers jours. Les 3 qui sont sur la droite, c'est les 3 suivants. Et vous voyez que le 6e jour en bas à droite, ça représente la création de l'homme et de la femme. Pourquoi ? Parce que le sommet de la création, la cerise sur le gâteau, c'est la création de l'homme à l'image de Dieu. Ça va, ça ? C'est ce qu'on a tous en tête, non ? Rassurez-moi. Bon, un autre exemple, ça c'est la pochette de disque que j'ai retrouvée chez mes parents, Die Schöpfung, la création, l'oratorio de Joseph Haydn. Eh bien, quand on regarde à l'intérieur de la pochette, c'est tout en allemand, hein, mais c'est aussi en 6 vignettes. Pourquoi ? Parce que dans l'oratorio, il y a 6 temps. Un pour chaque jour de la création. D'accord ? Le dernier, en bas, à droite, création de l'homme et de la femme. Allez, encore un exemple. Ça, j'adore ça. Le catéchisme de la bonne presse, c'est ces grandes planches illustrées qu'on trouve encore parfois dans certaines cures ou dans certaines sacristies. C'est absolument précieux, ça, messieurs, dames. Si un jour vous tombez dessus, ne le perdez pas. Donc, le catéchisme de la grande presse, mon grand-père, il a eu le caté avec ça. Le matin, monsieur le curé, après la messe, sortait une grande planche illustrée et il faisait le caté avec, il y en avait, je ne sais pas, 80, 90, 100. Et ça, c'est celle qui représente la création. Donc, vous voyez, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre tout au-dessus, vous avez vu sa représentation, hein, barbu et tout, et puis ensuite, un arc pour chaque jour de la création. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on voit où il crée les 2 luminaires, le petit, le grand. Et puis tout en bas, la création de l'homme et de la femme. Donc, c'est bien ça qu'on a vu. L'homme a été créé en 6 jours. C'est lui le dernier, le sommet de la création. C'est lui le dernier acteur. C'est ça la représentation mentale que nous avons en tête depuis des générations et des générations. Or, quand on lit bien, la suite du récit de la Genèse dit ça. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa. C'est bien ce qu'on a en tête, ça. Mais d'habitude, on s'arrête là, en fait. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia. Autrement dit, le dernier acteur de la création, ce n'est pas l'homme. Le dernier acteur de la création, si on lit bien, c'est Dieu lui-même. La cerise sur le gâteau, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme. Et il y a une manière de lire le récit de la Genèse, si on le fait à la manière de Jürgen Moltmann, pour reprendre lui, qui est de penser que l'homme n'est pas le sommet de la création, mais la créature la plus dépendante. Vous inversez la pyramide. L'homme est le dernier créé de toutes les créatures. C'est celui qui ne peut pas vivre sans les autres. Les fleurs des champs peuvent vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans les végétaux, les animaux, etc. Le soleil, la lune peuvent vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans le soleil et la lune. Ça va, vous suivez ? Et donc, ce principe-là, il nous conduit à voir les choses autrement. Jürgen Moltmann dit, selon les lectures écologiques du récit de la création de Genèse 1, l'être humain est la dernière créature de Dieu et pour cela la plus dépendante. Ce n'est pas qu'il est le maître de tout au point où il peut soumettre tout le monde. Pour toute sa vie, l'être humain est dépendant de l'existence des animaux et des plantes, de l'air et de l'eau, du jour, de la nuit, du soleil, etc. etc. Et donc, il invite à comprendre, c'est la dernière phrase, l'être humain d'abord comme une créature dans la grande communauté de création de Dieu. Et ça conduit à questionner l'anthropocentrisme dont il est question. Parce qu'à ce moment-là, l'homme, il est dépendant des autres et c'est plus lui le centre qui a la permission de tout exploiter ou de tout soumettre. Marc Stenger, la démesure anthropologique est tout à fait contraire aux convictions bibliques qui parlent plutôt pour l'homme de gestion humble et paisible de la création dans le respect et l'amour de ce que l'on gère. On relit aujourd'hui des textes comme ça dans la théologie. Le pape François va dire à sa manière, tout est lié. Vous l'avez déjà probablement entendu plusieurs fois. Il va le dire dans Laudato aussi, il va le reprendre aussi après, en disant que finalement, tout est lié dans notre manière de vivre. Alors, il le dit, vous voyez, je l'ai mis en couleur aussi, en disant la négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu, avec la terre. Les quatre. Autrement dit, ces quatre, moi, Dieu, les autres, la terre, c'est lié. Un de mes collègues, Fabien Revol, le dessine avec l'image du tétraèdre. Le tétraèdre, c'est comme une pyramide, mais avec une base triangulaire. Il y a quatre sommets, il y a quatre côtés. Et vous mettez à chaque sommet, moi, Dieu, les autres, la terre. Si l'une de ces relations-là est abîmée, alors ça abîme l'ensemble. Et donc, par exemple, si ma relation avec la terre est abîmée, ça abîme tout le reste. Et ça vient questionner l'anthropocentrisme. Et c'est ce que va développer le pape François dans son encyclique Laudato aussi. J'en dis pas plus sur toutes ces questions-là. Si vous êtes intéressé par la manière dont les documents catéchétiques présentent la création, la fin des temps, parce que c'est lié, il y a un bouquin qui vient juste de sortir, qui est en fait le résultat d'une thèse HDR, habilitation à diriger des recherches à Fribourg. Je le dis parce que c'est paru, oui merci, tu en as là-bas, c'est paru en février 2024. Donc vous voyez, c'est tout récent. Moi, c'est même un des premiers exemplaires que j'ai en main, en fait. Et donc, vous y retrouverez les représentations de la création et un certain nombre d'éléments là-autour. Ça va, vous êtes toujours là ? Super. Alors, je peux finir avec mon troisième point. Je voudrais vous proposer quelques pistes pastorales. Alors là, c'est pareil. Il y en a quelques-unes que vous trouverez un petit peu plus développées dans ce bouquin-là, « Transmettre la foi en temps de crise ». À l'intérieur, vous allez trouver trois chapitres, un sur la question numérique, un sur la question écologique et un autre sur la question des abus dans l'Église. Parce que ça aussi, c'est un élément qui affecte, on ne peut pas parler de tout, qui affecte la transmission de la foi aujourd'hui. Et un dernier chapitre sur les pistes pastorales que je vais vous présenter ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Parce que quand même, il faut qu'on aille jusque-là. Ce que je vous présente, c'est plutôt des perspectives ou des éléments que nous pourrions prendre en considération, soit à plusieurs, soit tout seul, y compris déjà dans nos propres familles. La première chose, c'est que annoncer le kérygme, c'est-à-dire annoncer que Jésus-Christ est mort et ressuscité tout seul, ça ne porte pas le même témoignage que si on le fait en Église. Et donc, il y a une forme de nécessité de témoignage individuel, mais il y a aussi une responsabilité de témoignage collectif, communautaire, si vous voulez. Et c'est pour ça que la question de la crise des abus, l'abus pas seulement sexuel, mais aussi l'emprise spirituelle, etc., est absolument dramatique, parce que ça vient interroger ces éléments-là. On va le retrouver comme invitation dans la joie de l'Évangile, on va le trouver dans le dernier directoire pour la catéchèse. Le pape François, il va dire ceci, n'hésitez pas, alors c'est moi qui le traduis avec mes mots, n'hésitez pas à dire le kérygme avec vos propres mots. C'était tout l'enjeu du rassemblement Kérigma qui a eu lieu au mois d'octobre dernier à Lourdes, avec tous les acteurs de l'évangélisation. Et le pape François, lui, pour donner un exemple, il dit « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant, il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Entendre ça aujourd'hui, ça porte plus que de dire « Jésus sauve ». Parce que sauve de quoi ? Ben, il sauve de ce qui vient... t'emprisonner, ce qui vient te rabaisser, ce qui vient te mettre dans la nuit, etc., etc. On a besoin de trouver d'autres mots pour dire Jésus sauve. Voilà. Mais ça, c'est chacun qui doit pouvoir essayer de le faire à son niveau en fonction des personnes à qui il s'adresse. Vous voyez, le vocabulaire là est absolument indispensable. Un autre élément pour l'annonce du kérigme qui est vraiment intéressant à prendre en considération, et là je vous le fais en raccourci hein, parce que je ne peux pas tout déployer devant vous, c'est bien prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, vous vous souvenez de ce qu'on s'est dit pour la transmission du savoir, hein, aujourd'hui on n'apprend plus de la même manière. Et dans le domaine de la foi, on a besoin de prendre en considération deux aspects. Et pour le directoire pour la catéchèse de 2020 remet en lumière, comme d'autres documents avant, ces deux aspects-là. Ces deux aspects-là, en fait, on les retrouve déjà chez saint Augustin. C'est pour dire, c'est pas nouveau, hein, simplement on les comprend mieux. Saint Augustin disait à son époque, je le dis avec mes mots à moi aujourd'hui, on a besoin de transmettre ce qu'on appelle la fides quae creditur. Fides, la foi, creditur, le verbe croire, la fides quae creditur, ce qu'il faut croire, ce que vous ne pouvez pas inventer par vous-même, ce qu'il faut bien apprendre par cœur, les paroles du Notre Père, les paroles du Credo, personne ne peut les inventer par lui-même, il faut bien qu'on nous les transmette, et il y a bien quelque chose à apprendre par cœur. Quand vous devenez au CIF pour la formation, vous venez apprendre des éléments de contenu aussi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un contenu, je le symbolise comme ça, qui est bien à transmettre. Le contenu du message chrétien, si je veux professer la foi de l'Église catholique, il faut bien que quelqu'un m'en transmette les mots. Ça, c'est toujours à faire. Et probablement à renforcer. Mais, vous comprenez bien qu'on peut faire apprendre par cœur les paroles du Notre Père à quelqu'un, on peut lui demander de les redonner, peut-être qu'il le fera pour vous faire plaisir, ou parce qu'il a peur de vous, ça s'est passé comme ça aussi au siècle dernier, hein, peut-être encore aujourd'hui dans certains endroits. Mais si intérieurement il n'a pas envie d'y croire, la transmission n'aura pas eu vraiment lieu, on est d'accord. Il n'y a pas l'adhésion personnelle. Et donc, saint Augustin ajoutait ce qu'il appelle la fides quae creditur, vous reconnaissez les mêmes mots, fides, foi, creditur, le verbe croire, c'est-à-dire la foi par laquelle je crois. Moi, j'ai pris l'habitude de le symboliser par un petit bonhomme pour dire tout cet aspect de la conversion personnelle, l'adhésion personnelle. Intérieurement, il faut aussi que ma propre liberté puisse s'exprimer. Alors, c'est ce cœur tout brûlant dont parlent les disciples d'Emmaüs le long du chemin. Cette envie d'y croire, si vous voulez, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on a un grand nombre de catéchumènes ou de personnes qui ont soif de quelque chose, qui vont sur Internet et qui trouvent des tas de trucs. Ils vont se bricoler une foi à eux. Mais ils ont une fides quae naissante qui commence à mûrir, mais ils se fabriquent une fides quae avec tout ce qu'ils trouvent. S'ils ne trouvent pas une communauté chrétienne qui leur donne les mots de la fides quae, ça n'est pas la foi de l'Église catholique qu'ils vont professer au bout d'un moment. Ça va, ça? Donc on a besoin des deux. On a besoin autant de porter notre attention sur la fides quae que sur la fides quae. Parfois, avec les enfants, en camp, moi je dis, on a besoin autant de la tête que du cœur. Alors c'est caricatural aussi, mais vous l'entendez dans l'esprit de ce que je vous ai dit. Une de mes étudiantes, qui était de formation scientifique il y a quelques années, quand j'expliquais ça, me disait « Ah, mais madame, ce que vous dites là, ça me fait penser à un brin d'ADN. » Vous savez, le brin d'ADN, il y a deux fils, c'est entrelacé et c'est relié en permanence. Ben, vous imaginez que l'un, c'est la fides quae et l'autre, c'est la fides quae. On a besoin des deux. On a besoin de faire porter notre attention autant sur l'un que sur l'autre. Et c'est exactement ce que va dire, sans prendre cette image-là, le directoire pour la catéchèse, qui est paru en 2020 et qui s'adresse à l'Église universelle. Voilà. Oui, c'était même encore avant Ratzinger. En fait, la première fois qu'on va dire les choses comme ça, c'est en fait saint Augustin, mais c'est repris avec notamment Jean-Paul II dans Catechesis Tradendae en 79. En 79, vous voyez, ça remonte, c'est le premier texte de Jean-Paul II, et c'est tout de suite après son élection, il y avait eu Evangelii Nuntiandi auparavant, en 75, mais en 79, il publie la catéchèse dans le monde de ce temps. Et il va avoir cette définition de l'acte de transmission, en fait, en disant la catéchèse, le but définitif de la catéchèse est de mettre non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Et là, on comprend bien qu'il s'agit de connaître quelqu'un, non pas seulement avec une connaissance objective sur lui, bien sûr, il faut connaître son nom, son époque, etc., mais aussi une connaissance par le cœur. On connaît bien un ami quand on connaît ses peurs, ses centres d'intérêt, etc., etc. Voilà. Et donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont développés progressivement et que nous pouvons avoir en tête quand nous nous posons aussi des questions. On doit pouvoir parler au cœur et à la tête en même temps. Alors, d'autres pistes, dans un monde qui n'a pas de centre, je pense que la synodalité, telle que le pape François essaye de nous la faire déployer, c'est justement une réponse à ce monde en réseau. Nous sommes bien dans un monde en réseau où les personnes ont besoin d'être acteurs. Mais en même temps, nous avons à tenir le fait que nous, les chrétiens, nous avons un centre. Notre centre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous permet de dire « notre Père qui est aux cieux », et c'est lui qui nous permet d'être frères. La synodalité, ça n'est pas la démocratie. La synodalité, elle est en cours d'apprentissage. C'est à la fois la nécessité que tous soient acteurs et qu'on se rappelle que nous sommes convoqués par un seul et même Jésus-Christ. Et donc, il y a aussi une forme d'autorité qui s'exerce là-derrière. Il va dire, le pape François, en 2015, quand il commence à travailler cet aspect-là, « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. » Alors, on en parle beaucoup ces dernières années, mais la synodalité, je pense que c'est une réponse possible au monde en réseau de ce temps, pour permettre à chacun d'essayer d'écouter l'autre dans ses différences. Vous voyez, ce que je vous présentais dans la première partie, c'était combien nous risquons de boucler sur nous-mêmes. Dans ce système-là, on cristallise les différences. On exacerbe les oppositions, en fait. Eh bien, si nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à montrer que dans cette société-là, il est possible d'apprendre à écouter l'autre, à essayer de le comprendre, sans se trahir soi-même, eh bien, je ne sais pas qui d'autre arrivera à la faire. Parce que nous, nous avons un centre. Ce centre, c'est Jésus-Christ, et il devrait nous permettre d'arriver à discerner ensemble, à nous écouter, à respecter les différences. Et on s'aperçoit à l'échelle de l'Église universelle, pour ne pas dire à l'échelle de la paroisse, que ce n'est pas si simple. Voilà. En tout cas dans la mienne. Allez, une autre chose que l'on peut regarder de près, c'est éduquer à la contemplation du beau. Voilà, ça vraiment, c'est prêter attention à la beauté, l'aimer, ça nous aide à sortir de l'utilitarisme, en fait. Voilà. Et ça, faut pas hésiter. Dans Laudato aussi, le pape François le dit aussi. Quand quelqu'un n'apprend pas à s'arrêter pour observer, pour évaluer ce qui est beau, il n'est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d'usage et d'abus sans scrupule. Si vous avez des petits-enfants, c'est la première chose que vous pouvez faire concrètement avec eux. Après, avec les grands, c'est moins facile, mais c'est encore possible. Parce que quand on va se promener, il y a aussi des belles choses possibles. Il ne faut pas trop mettre de côté cet aspect-là. On pourrait le trouver très, très évangélique dans le mauvais sens du terme. Mais la capacité d'émerveillement, c'est quelque chose qui est probablement à cultiver. Si vous n'avez jamais lu ce petit bouquin, Jade et Sacré Mystère de la Vie, je vous conseille, c'est un magnifique cadeau à faire à des ados, par exemple. Développer la spiritualité, c'est un autre aspect que nous pouvons faire. C'est-à-dire, là, vous voyez, la spiritualité, c'est aussi pour travailler et faire mûrir notre fidesquoi. Nous former aux éléments importants, c'est ce que vous faites aussi, par exemple, mais continuer à développer la spiritualité. Le pape François va parler de gratitude, de gratuité, de conscience amoureuse, de créativité, d'enthousiasme, de sobriété, d'humilité, de paix intérieure. Ça, c'est dans Laudato si aussi. Pour dire que derrière ces capacités-là, il y a quelque chose qui se joue aussi de notre capacité à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelqu'un de plus grand que nous. Et c'est donc en essayant de cultiver ces différents éléments-là qu'on peut progressivement essayer de se décentrer pour laisser la place à l'autre. Et donc, vous aurez compris, je termine par ça, vous aurez compris qu'on est là devant un programme de vie. Ce n'est pas en une séance, en deux séances, en trois années de catéchèse que ça se fait tout ça. c'est un programme de vie qui nous prend nous aussi dedans. Et donc, la transmission de la foi, l'évangélisation, c'est à tous les âges de la vie, en essayant de prendre chacun là où on est, puis de cheminer avec lui, de compagnonner d'une certaine manière. Alors, on s'y met maintenant, du mieux que l'on peut, en tenant compte de la société dans laquelle on est, mais avec les clés de compréhension que j'ai essayé de vous donner tout à l'heure. Non pas pour diaboliser Internet ou essayer de le comprendre comme quelque chose qui serait dangereux, mais pour au contraire éduquer à son utilisation. Voyez, le livre aussi peut être dévoyé, la vidéo aussi. Et donc toutes les inventions techniques, elles sont là pour qu'on apprenne à les utiliser de manière sereine. Voilà, je m'arrête là parce que ça faisait déjà un bon moment. Merci pour votre attention, messieurs, dames.
Merci. Donc, si vous avez quelques questions, on a un moment, on a un bon moment. Il y en a une ici.
Oui, une toute petite question. Pendant un temps, on parlait beaucoup de droits et de devoirs. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout.
On n'en parle plus dans certains milieux. Hein. Dans certains milieux éducatifs, on va plus trop en parler. Encore que pour certains, on y revient. Voilà. Mais ça, c'est un marqueur de l'évolution dont je vous montrais les flèches tout au début. Je vais essayer de le remettre pour que voilà. C'est un marqueur de l'évolution du champ anthropologique éducatif aussi en même temps. Alors forcément, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne supporte plus les devoirs? Eh bien, c'est aussi le fait qu'on est dans une société où on a besoin d'être acteur. On le prend tout de suite comme une brimade de notre liberté. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a laissé de côté. On a probablement à entendre qu'il y a une forme de juste équilibre à retrouver. Voilà. Moi, j'ai tendance à chercher d'autres mots que droits et devoirs. Parce que les droits, on les comprend aussi comme des permissions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être poussé à l'extrême. Voilà. Mais oui, ça, c'est tout à fait... Merci pour la remarque. C'est tout à fait... un indicateur de ce qui évolue en ce moment. D'autres choses, peut-être. Ou des réactions, tout simplement. Hein. Si ça rejoint vos expériences en paroisse ou en famille. Oui,
moi, j'ai une petite remarque, mais au début, quand vous expliquiez que l'Internet nous faisait boucler sur nous-mêmes, j'étais assez frappé par une question qui se pose en ce moment, on est en plein carême, et une espèce d'obsession de prédication d'un grand nombre de confrères sur pour être un bon chrétien, il faut sans cesse boucler sur son péché. Boucler sur son péché. Nos prières commencent, vous l'avez remarqué, par une démarche pénitentielle, ce qui pour moi est un faux et un usage de faux. Et ça fausse tout. C'est-à-dire, Dieu n'est pas grand au prorata de notre misère. Voilà. Donc, et je pense qu'il y a quelque chose dans notre pastoral de la confession, une pastorale sur le péché, qui est de l'ordre de l'Internet. C'est-à-dire, nous n'avons finalement de référence que nous-mêmes et nos obsessions.
On peut le dire comme ça. Alors après, ce qui fonctionne aussi derrière, c'est que ce sont beaucoup nos propres représentations de Dieu, de la place de l'homme par rapport à lui, de la façon de le comprendre, qui sont en jeu. Souvent, c'est le fait actif de quelques blogueurs, hein, ou de quelques youtubeurs, ou de quelques influenceurs, qui sont plutôt aussi très identitaires et qui vont aller piocher ces images-là. Donc, ils vont dans un champ théologique donné, qui va aussi donner une certaine ecclésiologie, une certaine représentation de leur propre personne, etc., etc. Voilà, voilà, une certaine psychologie, tout à fait. On peut le dire comme ça, hein. Oui, tout à fait. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais dans la question de l'autorité, vous vous souvenez, je vous ai dit, notre rapport à l'autorité est en train d'évoluer. Eh ben, il y a quelque chose de tout à fait stupéfiant, c'est que c'est pas les sites internet, leur autorité n'est pas liée au fait qu'ils soient institutionnels. C'est pas ça qui est en jeu. Le site de la Conférence des évêques de France, il n'y a pas beaucoup qui le connaissent. Par contre, le curé de TikTok, alors oui, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il est ultra célébrissime. ou le frère Paul Adrien sur Instagram et sur YouTube. Alors ça, oui, il y a des millions et des millions de followers. Hein. C'est... Et donc, celui qui fait autorité, c'est plus le patron. C'est celui qui a plein de likes, de j'aime, de retweets, etc., etc. Et vous comprenez que ça met à mal tous les systèmes d'autorité, ça. C'est pas vrai que dans l'Église. C'est vrai pour le statut du prof dans sa classe. C'est vrai pour le président de la République dans son pays. C'est vrai pour le maire du village, etc., etc. Voyez. Alors nous, ça nous pose un problème parce que pour ce qui est de la foi, il y a bien une autorité magistérielle qui est là pour nous aider à dire ce qui est vraiment de l'ordre de la foi ou pas. Parce que sinon, chacun s'invente. S'invente, pardon, sa propre foi à lui, s'auto-centre, en fait. Vous voyez ? Donc ça, c'est le risque. Donc le paradoxe, c'est qu'on est dans un monde qui n'a pas de centre, mais il faut nous souvenir que nous, catholiques, nous avons un centre. Et il ne faut pas se tromper de centre, c'est surtout ça. Le centre, c'est Jésus-Christ. C'est pas le magistère, c'est pas le curé de TikTok, et c'est pas moi. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ,
oui. Oui, merci. J'avais juste une question justement par rapport à l'absence de ce centre sur Internet. Et je me dis, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, oui, est-ce qu'on ne va pas voir justement, malheureusement peut-être, tout converger, se diriger vers l'intelligence artificielle?
Ah ben ça, on y est déjà en plein dedans. Pardon, hein, mais en fait... Je pense que nos moteurs de recherche, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et il y a déjà beaucoup de choses, en fait, qui sont dedans. Alors, pour la petite anecdote, après avoir publié le bouquin sur parler de la création et avoir analysé la manière dont les documents catéchétiques traitent le récit de la création, je suis allée sur ChatGPT. Donc, c'est un logiciel d'intelligence artificielle. Et j'ai demandé, invente une séance de catéchèse sur la création pour des enfants de primaire. Je vous dis pas de faire ça, hein. Mais je l'ai fait par curiosité. En 3 secondes, il m'a sorti un déroulé qui m'a laissé pantois. Alors, ben, je vais vous dire dans quel sens. Parce qu'après, je suis allée vérifier des trucs. J'ai demandé des... Alors, c'est le modèle pédagogique majoritaire de la pédagogie active. Donc ça commençait par une introduction. Je pourrais vous le je vous le retrouve pas parce qu'on n'en a pas fini là. Il y a une introduction, il y a une invitation à la prière. Ensuite, on va demander à chacun de s'exprimer pour dire ce qu'il sait. Après, on va lire le texte de la Genèse et on va attirer l'attention sur telle ou telle chose. Puis ensuite, on va faire une petite activité créative pour dessiner ou pour coller. Voilà. Puis on terminera par une dernière prière. C'est pas faux, enfin c'est pas mauvais, enfin c'est voilà, mais c'est le schéma basique de ce qu'on avait dans les années 70, 80, 90. Bon. Puis la deuxième chose que j'ai vérifiée, c'est que la manière de comprendre la création, c'était en 6 jours. Ce que justement je vous ai. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle nous Elle nous renvoie ce qui est majoritaire dans l'ensemble des données qui sont collectées. Et donc, nos représentations mentales majoritaires, c'est que la création a été faite en 6 jours. C'est ce que je vous ai montré. Hein. Et donc, ChatGPT, bah, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir tout ce qui avait été écrit et il a ressorti ce qu'il voyait. Et donc, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est en train de renforcer les représentations mentales majoritaires. Majoritaire de ceux qui sont en train d'entraîner cette agence artificielle-là. Parce que ChatGPT, c'est nord-américain. Je vous passe tous les essais que j'ai faits dessus, par curiosité. Hein. Mais quand je lui demandais des références de documents, il me renvoyait tout le temps à des bouquins anglais, enfin américains en fait. Et si je lui demandais, mais tu connais pas la revue Études, la revue Christus ? Ah mais si, bien sûr, la revue... Mais il allait chercher parce que je lui avais donné le nom. Mais sinon, il me renvoyait à d'autres références. Vous voyez ? C'est assez stupéfiant. Et surtout, ça nous laisse entendre que si jamais... Alors, le logiciel que j'ai testé était très bienveillant, très attentif, et très précautionneux. C'est-à-dire qu'il ne disait pas de mal de personne. Parce que les Nord-Américains font très attention à ne pas avoir de procès de la part de ceux qui les utiliseraient. Mais vous vous dites très vite, mais si ce logiciel était entre les mains d'autres pays, vous les imaginez à l'autre bout de la planète, où vous voulez, ça pourrait très bien être entraîné autrement. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le phénomène des bouclages, des boucles ou des bulles dont je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ça va être exacerbé, en fait. Multiplié, largement multiplié, en fait. Ça va ? Oui, c'est assez... Il y aura bientôt un numéro de la revue Lumen Vitae qui va sortir au troisième trimestre, qui s'intéresse justement à la transmission de la foi avec l'intelligence artificielle. Il y a déjà quelques articles de sortie aussi. Ouais. Bon, d'autres choses. Vous êtes déjà... Je ne vous ai pas assommé, hein, j'espère. Hein ? Très bien, super. Oui, tu as une question.
Je suis dans un monde rural.
Oui.
Une catéchèse que j'assume. Et fort en arrivant, je m'étais dit, mes petits gars, je vais vous coincer. Je vais trouver un chemin Internet pour vous captiver et voir que j'ai peut-être une différence d'âge, mais je peux comprendre votre entrée et votre sortie. Je peux m'y intéresser, mais je ne cautionnerai pas tout. Or, fort de tout ce que j'entends, je me dis, il ne faut surtout pas que j'y aille.
Ah, oui, mais alors merci
parce
de poser la question.
Parce que je me dis, à la limite, peut-être que ça sera encore plus difficile que c'est aujourd'hui, parce que je vois quand même une dégradation. Le mot que je digère actuellement, c'est que la catéchèse est maintenant non plus un enseignement, mais une activité. Donc je digère ça, et ça, c'est un peu dur quand même, hein, par rapport à tout ce que j'essaye de transmettre. C'est ce que je ressens. Je passe après le rugby, on ne va pas aller à la
matière
ah oui,
à mots,
parce qu'il y a une sortie, il y a une fête organisée par l'école. Donc voilà. Moi, je passe après tout. Et pourtant, c'est super sympa, notre... C'est un bon moment passé ensemble et j'ai pas d'absentéisme même c'est quand même un bon voilà et je suis soutenue par les familles et je me dis à la limite ben, peut-être que fort de tout ça il faut peut-être que je résiste d'une certaine manière et que je reste dans un enseignement plus oral qui fasse que je suis mon tort hein, mais c'est une provocation que je fasse un peu grand-mère fait de la résistance, quoi. voilà. Parce que si je vais dans le monde Internet, je peux encore plus les perdre, en fait.
Alors, c'est une question importante, hein, parce que qu'est-ce qu'on fait ? On cautionne, on ne cautionne pas, on y va, on n'y va pas. Bon. Quoi que vous fassiez, ils sont de toute façon dans ce monde-là. Ils y sont. Et même si vous leur offrez une bulle pendant une heure, deux heures, un moment, de toute façon, ils vont y retourner. Et donc, le meilleur service à leur rendre, mais en fait, on peut le dire pour nous aussi, hein, le meilleur service à rendre, c'est de travailler à une forme d'éducation de l'utilisation de cet outil-là. Le comprendre comme un outil, mais c'est plus qu'un outil, parce que j'ai essayé de vous montrer que c'était modélisant dans notre manière de vivre aussi. Mais le meilleur service que l'on peut faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un bon prof, il apprend à vérifier ses sources. Il apprend à douter de ce que l'on... C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Pourtant, il y a des belles choses sur Internet. On va vérifier. De quoi peut-on être sûr aujourd'hui ? Eh ben, quand on prend la Bible, qu'elle soit sur Internet, dans le site de l'AELF, traduction officielle, ou dans ma Bible, la Tob, la Bible de Jérusalem, ou la Bible pour la liturgie, etc., eh bien, je suis assurée par l'Église que ça vaut la peine. Je peux être sûre de ce qui est écrit dedans. Mais que ce soit sur Internet ou sur mon bouquin papier. En fait, c'est plutôt une éducation à qui puis-je faire confiance. Qu'est-ce qui peut être sûr? De quoi peut-on être sûr? Sur quoi, nous, on s'appuie, nous, les chrétiens, en fait? Vous voyez ce que je veux dire, un peu? C'est plus de l'ordre de l'éducation, en fait. Et moi, je pense qu'il ne faut pas être absent de ce monde-là. Les différents papes, depuis Jean-Paul II, hein, à chaque journée mondiale de la communication, c'est en janvier, publient un texte pour donner une forme d'encouragement, de conseil, etc. Moi, je me suis amusée avec mes étudiants à les reprendre tous depuis 15 ans. Et on voit apparaître progressivement une centration sur Internet, en attirant l'attention au début sur les opportunités extraordinaires que offre Internet, et puis aujourd'hui en attirant l'attention sur les risques et les défis. Bah, parce que nous sommes dans ce monde-là aussi, et donc il faut plutôt apprendre à vivre avec ce monde-là, tout en gérant le paradoxe qui est le nôtre, ou les paradoxes que j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Alors évidemment, c'est un paradoxe, ça nous met dans une position inconfortable. Et je pense que les chrétiens ont toujours été dans des situations inconfortables, en fait. Il faut tenir cet inconfort tant que possible. Mais parce qu'on tient à la fois à être de ce monde, vraiment, sans être dupe de ce qu'il produit ou de la manière dont il est organisé, mais centré sur Jésus-Christ, toujours. Voilà, on tient les deux. Et on garde l'équilibre. Ça va ouais. Alors, je suis bien consciente que ça ne résout pas toutes les questions, mais ça veut dire qu'on peut utiliser un peu, mais surtout rendre attentif à ce que, tout ce qui est possible, en fait. Hein.
Eh bien, merci beaucoup. Si les uns et les autres, vous avez un peu de temps, perdons du temps ensemble. Donc, il y a un bar là qui est en train de s'installer. On va pouvoir discuter comme ça librement les uns avec les autres. Encore vraiment merci. On va pouvoir discuter aussi ensemble et boire un verre. Vous en avez besoin.
Voilà, merci. Et puis quelques livres, si jamais vous voulez, qui sont encore disponibles.